Vous avez 3 minutes encore, il faut que je passe un coup de fil un peu d'urgence, excusez-moi. Je vous fais patienter du coup, merci beaucoup pour votre compréhension.
Alors attends, ah, il faut que j'aille chercher ma chaise.
Oh putain.
Est-ce qu'il allait vraiment se mettre debout en fait?
Mais oui.
Bon, c'est pas bon, bah, mon interlocutrice n'était pas dispo. Ok.
Et tout ça est donc enregistré.
Oui.
Oh putain. Ah ouais, l'enfoiré.
Et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. Si vous voulez tout savoir sur les séries du moment, c'est ici que ça se passe. Je ne vois aucun autre podcast qui est autant au taquet que nous. Vous pouvez vérifier. Alors avec moi, présidente du fan club de Naomi Scott, Aki.
Coucou, c'est vrai?
Bah oui.
Comment tu dévoiles des secrets, toi?
Élu meilleur podcasteur série avec 30% des voix, Fred.
Salut.
Second avec 29%, Maxime.
Je suis au deuxième tour au moins.
Et le ministre des bonnes séries, Stéphane.
Ah, oh, c'est gentil.
Mais tu vas bientôt être viré.
Oh, bah.
Au programme du mystère, des larmes, des armes, des psychodrames, des yoctogrammes, pourquoi pas, et du charme à l'embon.
Alors, yoctogramme, quoi, un yoctogramme,
pour... un yoctogramme. Qu'est-ce que c'est un yoctogramme? C'est une unité de mesure. Ça vaut 10 grammes. Voilà, vous pouvez le ressortir.
Ok. Merci.
Ok, bon, merci pour cette science.
Merci, mais je vous en prie. On commence tout de suite avec une série dont on a déjà parlé d'Apple TV+, Severance, qui vient de se terminer, la saison 1 s'est terminée. À qui?
Oui, c'est
alors,
moi.
On ne va pas te demander de pitcher la série, on l'a déjà fait.
Ah super,
comme ça, moi, c'est fait. Mais alors, est-ce que c'était bien au final?
Bah, du coup, je le redis et redis, oui, c'était super bien.
Si j'avais ça te fait chier, tu le dis.
J'avais eu l'opportunité de voir la série d'une traite à sa diffusion, en fait. Et effectivement, l'épisode final est intelligent. J'ai lu des critiques qui disaient « Non, mais c'est n'importe quoi, il ne devrait pas compter sur le fait de aussi indiquer une seconde saison, ils auraient dû conclure un peu plus la première histoire. » Moi, j'étais, mais n'importe quoi, enfin, c'est une série, en fait. Le but d'une série, c'est de sérialiser, et donc d'avoir, enfin, de potentiellement miser sur une seconde saison. Et c'est le cas pour Severance, c'est confirmé. Et heureusement, parce qu'effectivement, c'était un gros cliffhanger de fin. Et est-ce qu'on peut spoiler ou pas? On spoil? Non,
ce serait vraiment dommage.
Ok. Bon, ne spoilons pas, mais en tout cas, je pense que ça laisse la porte ouverte à tellement plus de possibilités avec ce qui se passe dans le dernier épisode que bah, j'espère qu'ils vont pas faire un pas en avant, trois pas en arrière à la saison 2, tout simplement. Donc que l'histoire avance des deux côtés, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Mais vu ce que le showrunner nous a proposé sur 9 épisodes, il va de l'avant et il y va au galop, donc... A priori, je vois pas pourquoi il se retiendrait et ça. On devrait avoir une saison 2 quand même qui explore pas mal de choses. Parce que, comme tu disais, les possibilités sont devenues exponentielles.
En revanche, il y a juste une chose où moi, ce serait. Il faut qu'il l'explique, qu'il l'écarte tout de suite. Pourquoi, tout simplement, ils n'arrêtent pas, ils ne virent pas leur Innis, tu vois. Ça, c'est une question. Genre, avec tout ce qui se passe, pourquoi ils se disent juste qu'ils ne mettent pas fin à leur contrat? Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir l'expliquer facilement, ça.
Mais juste, ouais, moi je suis pas. Enfin, pour moi, ça s'explique par le fait qu'on a l'impression que l'ennemi est faible par rapport à ce qui arrive à Patricia Arquette et que tout est tendu. Enfin, c'est ça qui fonctionne, c'est que on est dans un système qui est prêt à être cassé à cause des Innis, justement, et de ce qui se passe dans le final. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'en débarrassent pas, peut-être à voir. La révélation qu'il y a sur j'ai plus le nom de son personnage, mince, la fille.
Oui, Deacon Lachman, ouais. Quoi, mais je
non,
sais
non,
plus.
Non, non, non,
non, non, Ellie.
Ah non, pardon, Ellie, la fille, la fille.
Fait
oui.
Que ça pourrait peut-être s'expliquer par là. On les a pas forcément mis ensemble par hasard.
Hasard. Ouais.
Et du coup, tout ça, enfin, moi je trouve que le final que j'ai vu aujourd'hui pour le podcast est dinguissime. J'ai rarement vu ça depuis très très longtemps. On essaye de pas spoiler, mais les cliffhangers, tous les cliffhangers qui arrivent dans le final, pour moi, ils sont du niveau de ceux qu'on a vus dans Lost, tu vois. Je les ai tous.
Le point Lost, ça fait longtemps.
Mais on va avoir...
Il va y en avoir beaucoup dans cette
émission. Il y en aura beaucoup.
Très vite atteint.
Hein. Ouais, il va y en avoir vraiment beaucoup. Et moi, là où je trouve que ça fonctionne dans ce final-là, c'est qu'ils ont une mythologie. C'est une mythologie qu'on n'a pas vue. Enfin, je trouve qu'elle est très, très intelligente dans sa construction. C'est quelque chose qui est totalement inédit et qui joue extrêmement bien de son principe de départ. Au début, on trouvait ça... Enfin, là, on va dire que les 4 premiers épisodes sont assez redondants pour qu'on rentre bien dans la dynamique de la série.
Alors, moi, pour le coup, je te dirais que c'est les 3 premiers. Extrêmement longs. Et le 4e fait point de bascule et il te lance sur les 4 derniers qui sont quand même assez fous les uns après les autres.
Oui, voilà. Enfin, peu importe où on place le curseur, mais on voit vraiment qu'il avait construit.
Non, parce que moi, j'étais prêt à abandonner après le 3e.
Ouais. Sérieux ?
Ah oui, ah non, je me faisais voilà. Vraiment très très chier quand même.
Ah ouais.
C'était passionnant, mais c'était chiant.
Et je trouve que la deuxième partie de saison, on voit vraiment pourquoi ils ont fait ça. On voit vraiment qu'ils ont tout pensé, le moindre détail, que quand tu arrives à cet épisode, il se passe ce qui se passe. Voilà. On voit qu'ils ont vraiment tout construit en allant vers là, et c'est pour ça que moi, j'ai aucun doute sur la saison 2. Je pense qu'ils savent exactement où ils vont. Peut-être pas en combien de saisons ils y vont, mais... On voit qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, je trouve ça dingue. Et moi, j'ai été emporté vraiment quand j'ai vu côte à côte le final de From et le final de Severance. Et les deux sont très, oui, voilà, lostiens. Mais celui de Severance, vraiment, c'est dingue. Le dernier cri de Adam Scott dans l'épisode. J'ai trouvé ça.
Spoiler.
Je dis juste qu'il crie. Je dis juste qu'il crie. Mais je l'ai trouvé glaçant.
En revanche, pardon, mais parce que personne m'a répondu sur Twitter, mais pour le coup, ce truc-là de cliffhanger de fin, je suis désolé, mais enfin, où il y a que moi qui ai eu une super bonne vue, mais
non,
on s'en doutait quoi.
Oui, il est expliqué, mais c'est plus le...
Ah ouais, bon d'accord, ça, j'ai pas rêvé parce que là, on avait vu ce qu'on avait vu dans un épisode précédent.
Oui, mais ce que je trouve assez fou, c'est comment ça va être un point de bascule justement pour à la fois l'extérieur et l'intérieur. Tout est construit sur ça dans l'épisode, mais juste cette dernière image, pour moi, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière, c'est plus possible. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant.
Bref, regardez Severance et attachez-vous les 3 premiers épisodes et après ça ira mieux, alors si je comprends bien.
Mais, non, mais parce que c'est vrai que les premiers font 1 heure quasiment.
Oui, et, oui,
et
c'est
les autres sont beaucoup plus rapides et sont beaucoup plus compacts. Ils n'ont plus besoin de poser de base. Et donc, en fait, il fait que s'amuser avec son univers et puis ils enchaînent les révélations, les surprises et les moments bien flippants. Ouais. Parce que Patricia Arquette est quand même assez... voilà.
Et puis les premiers, faut se les faire parce que c'est pas une ambiance qui est hyper joyeuse. Et en ce moment, voilà, faut pas être un peu déprimé parce que c'est un coup à se mettre une balle. Quand même, c'est pas une série au top de la forme, quoi. Mais une fois qu'on rentre dans l'univers, voilà, après, je peux qu'appuyer vos propos. C'est une série qui est super bien construite, qui est hyper intelligente, qui donne des pistes de réflexion sur l'humain, sur le travail, sur tout ce qui nous concerne en ce moment, qui est complètement d'actualité à l'heure où Macron veut nous faire travailler beaucoup plus. c'est hyper... c'est hyper, hyper intéressant. Le final, on l'a dit, il est vraiment au niveau. Les acteurs sont top. La réalisation, c'est Ben Stiller, on le reconnaît pas à la réal. Il évolue encore et c'est assez génial. Donc, je pense que c'est déjà un incontournable de l'année. Quoi.
Et les acteurs, acteurs sont vraiment exceptionnels.
Ouais. Et moi, ce qui m'a vraiment surtout intéressé dans la dernière partie de saison, c'est justement cette critique du travail. Je la voyais dans les premiers épisodes et je trouvais que c'était un peu le seul défaut. Je la trouvais un poil lourde, mais possiblement à raison. Là, dans les 3 derniers épisodes, je me suis dit, OK, ils sont partis de là, mais en fait, c'est pas que ce qu'ils veulent raconter. Et le fait de faire ça en 8 clos, enfin, moi, leur notion de 8 clos, je la trouve dinguissime. T'es tendu à la fois quand t'es dedans et à la fois quand t'es dehors, parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours des barrières. Et je trouve ça tellement intelligent. On a du mal à refaire, on l'a dit, c'est le syndrome post-lost. On a du mal à refaire des choses autour d'une île, des choses comme ça. Là, ils arrivent à faire, un 8 clos, à mettre leur personnage dans une bulle et à les voir éclater d'une manière totalement inédite. Ça, j'ai trouvé ça ouf.
Donc, c'est à rattraper sur Apple TV+. Après une fin de saison, une fin de série pour Killing Eve sur Canal+, je crois.
Il n'y a pas de H, n'essayez pas de mettre des H quelque part.
Mais, Haki. Allez, Maxime, parle-nous de la fin de Killing Eve.
Oui, bah, j'ai l'impression que je vais être un petit peu tout seul sur le coup, mais moi, j'ai adoré cette dernière saison. Ça retrouve pas le niveau de la première, loin de là. La première, c'est vraiment la meilleure, mais après des saisons 2 et 3 assez laborieuses, où ça partait un peu dans tous les sens, là on se concentre vraiment sur les personnages et j'ai adoré voir Sandra Oh et Jodie Comer s'éclater en fait à jouer ces rôles-là et à faire de ces personnages. C'est pas pas des icônes, mais des grands personnages. La manière dont évolue Yves comme Villanelle dans cette saison, à se chercher toutes les deux, à la fois le jeu du chat et de la souris, qui est un peu le principe de la série et qui là arrive à sa fin, mais aussi à se chercher elle-même. On voit que Yves, elle se débat avec sa morale parce qu'elle en vient à tuer des gens, sans spoiler. Et Villanelle, elle en a à un moment marre de tuer des gens et elle essaye de savoir si en fait elle est née comme ça, sociopathe, psychopathe, ou si c'est en gros son éducation, le fait qu'elle ait été avec des gens pas très fréquentables qui a fait qu'elle est devenue comme ça, totalement insensible aux autres. Et cette quête-là, même si elle est faite de manière assez absurde, je la trouve touchante pour le personnage, surtout que ça va vers une conclusion qui n'est pas forcément très acceptable, dans le sens où je peux spoiler, mais c'est une sociopathe. On le voit tout au long de la saison et les deux derniers épisodes le montrent très bien. C'est juste qu'en fait, c'est une sociopathe qui est tombée amoureuse et elle ne sait pas réagir à des sentiments qu'elle ne contrôle pas. Donc, quand elle est avec Eve, elle pète totalement un câble. Donc, vraiment, toute la construction des personnages, j'ai trouvé ça fou. Les scénaristes s'amusent beaucoup aussi. Dans leur dialogue, dans la manière dont ils présentent les épisodes, dans l'intrigue aussi, même si c'est un peu la fin, c'est le point faible de cette saison, c'est-à-dire que il y avait tout ce truc autour des 12, donc une grosse organisation mondiale qui contrôle tout, un peu comme on a vu dans Alias, et on a une conclusion qui est un peu tiède par rapport à ça, qui est un peu bâclée, mais qui reste quand même très très belle pour les deux personnages. Donc non, moi j'ai vraiment pris mon pied.
D'accord. Bah, bravo.
Et juste une petite question, c'est écrit par qui cette saison? C'était toujours le même showrunner depuis la saison 3 ou pas?
Non, je crois que c'est une nouvelle.
Ils ont encore changé.
Ouais. Mais... Okay. Et ce qui pouvait paraître une bonne idée au début de la série, une fois que Phoebe Waller-Bridge est partie, en fait, ça s'est transformé un peu en...
En calvaire. Ouais, en calvaire.
Ouais. Franchement, la saison 2 et 3, c'était vraiment pas ça. Là, on voit que... Je ne sais pas qui est la scénariste, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu mieux compris la saison 1, ou alors elle s'est vraiment appropriée les personnages. Je ne saurais pas le dire, je n'ai pas assez de recul, j'ai regardé hier soir. Mais je trouve ça, oui, beaucoup plus construit, beaucoup plus cohérent dans toute la saison, en tout cas. Et elle donne vachement plus de place aussi au personnage de Caroline, donc, qui est jouée par Fiona Shaw, et au personnage de Camille Cotin. Donc, qui joue la grande méchante de la saison, en gros. Donc, ouais, non, je pense que pour moi, c'est la deuxième meilleure saison de la série, et tant mieux qu'elle se termine là, c'est très bien. C'est très bien.
Mais c'était quand même regardable, les saisons 2 et 3.
Ah non.
Non.
Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé la saison 2 tellement horrible que j'ai préféré arrêter, surtout après cette saison 1 écrite par Phoebe Waller-Bridge, qui était exceptionnelle. C'était un scandale de produire un truc pareil.
C'est un scandale parce que la saison 1 a été excellente.
Mais... Ah ouais, mais c'est très difficile de passer.
Je suis d'accord avec toi, mais je suis passé entre temps par des encore plus mauvaises séries et je me disais, mais en fait, ça se suit, mais c'est pas dingue, mais ça se suit quand même.
On passe à une série très mystérieuse, Stéphane. C'est From sur Epic, c'est bientôt sur Netflix.
Ah ouais, ah bah, je savais pas.
Et oui, bah, l'international, ce sera sur Netflix, donc je pense qu'en France, ça va arriver.
Eh ben ça, c'est cool, parce qu'il faut y jeter un petit coup d'œil à cette petite From, là. La nouvelle Lost qu'on attendait.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Stéphane?
Alors, c'est des gens qui débarquent dans une ville, et là, ils ne peuvent plus en sortir. Mais sauf que plutôt que de faire une série à un seul concept, eh bien, c'est une série moi, que je trouve à deux concepts. Parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont bloqués dans une seule ville. Par n'importe quelle route, ils retombent toujours dans le village, enfin dans la ville, dans le village d'ailleurs, ça ressemble à je sais pas quoi. Il y a aussi des monstres qui débarquent la nuit. Et donc en fait, ils sont obligés de se calfeutrer et de rester cloîtrés toutes les nuits, sinon ils se font bouffer par des. On ne sait même pas ce que c'est en fait, des vampires, des zombies ou des morts vivants. Ouais. Enfin, c'était assez particulier.
Et un donc, peu comme dans la série de M. Night Shyamalan là, qu'il avait sorti il y a quelques temps, non?
Ben sur le pitch, eux, ils étaient bloqués que dans la même ville, je crois. Ils pouvaient pas sortir, c'est tout.
Ouais.
Voilà. Ben là, tu rajoutes un truc supplémentaire. Et en fait, les nouveaux arrivants vont un peu casser la routine et ça va partir en cacahuète. Donc il y en a certains qui vont quand même essayer d'aller creuser pour savoir quels sont les mystères derrière.
Littéralement creuser.
Ah oui, clairement, oui. Mais pour savoir les mystères de la ville et comment on fait pour en sortir, quoi, vivant.
Devront-ils trouver une trappe ?
Oui, parce que Stéphane, ce que tu dis pas, c'est que en fait tous les gens qui ont atterri là dans cette ville, ils n'ont pas atterri en même temps et que
ah oui non, il y en a un qui est là depuis le départ. Mm. Enfin, plus ou moins le départ.
Ils viennent tous de plein de routes différentes, ouais, et plein d'endroits.
Ils viennent de plusieurs endroits
des
États-Unis depuis des années ou des mois, voilà. Et en fait, ils essayent de vivre en communauté. Alors, il y a deux communautés en plus, parce qu'il y en a qui vivent
ensemble. Et
ouais, en se disant, bon, ben voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc on essaye de vivre ensemble et de faire la fête. Puis il y en a certains, c'est juste essayer de se barrer le plus vite possible.
Mais je viens de trouver, oui, c'est les 4400 avant qu'ils reviennent. De toutes les époques, de tout le pays, et à un moment, ils vont tous revenir, ils vont tout oublier.
Alors... Enfin bon, vu comme c'est parti dans le final, ça m'a donné ça comme explication quand même. Mais...
Oui, parce que il faut le dire, c'est que le tout premier finalement ne raconte pas grand chose.
Non, en fait, je crois que les deux ou trois premiers, c'est surtout les conséquences des gens qui arrivent, qui découvrent.
Oui, c'est plus ça, c'est la vie en communauté plutôt que tiens.
Et les conditions de, ben, on est bloqué, on peut pas sortir, la nuit il faut vite se coiffer chez toi, sinon tu te fais bouffer. Puis il y a un symbole bizarre que t'es obligé de mettre sur tes portes pour éviter que les gens rentrent dans, enfin les méchants, enfin les monstres ou je sais pas quoi rentrent chez toi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à expliquer.
On te le dit.
On te le dit, il faut l'accepter. Début, en fait, on est dans la position des gens qui débarquent. Quoi. On te dit plein de choses. C'est un peu compliqué parce que tu as beaucoup de trucs à intégrer. Et au bout de 2, 3, 4 épisodes, eh bien, ça va mieux. Et puis, ça commence à se tasser. Puis après, il y a un peu la vie.
Parce qu'ils ne l'expliquent pas. Ils parlent vraiment des personnages. Ils tentent de construire des personnages qui n'y arrivent pas. Enfin, voilà, ils n'y arrivent pas. Quoi.
Ouais. Mais et puis après, ça change.
Autant dans Lost, il y avait un passé. Grâce au flashback, ça construisait des personnages. Même s'il y avait beaucoup de stéréotypes sur l'île quand ça arrivait, là, il n'y a pas de stéréotypes. Enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi. Tu ne sais pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent.
Comme tu dis, on ne s'intéresse pas aux personnages, on s'intéresse au mystère. Parce qu'on t'explique de certaines choses d'où ça vient, même si ça explique rien, parce que ça soulève 3000 questions supplémentaires. Mais en fait, on ne s'intéresse pas aux personnages. Et de toute façon, c'est le point faible de la série. Hein. Les personnages, ils sont chiants à mourir.
Surtout la Daphné Patakia du pauvre, là.
Tu parles de la fille ?
Oui.
Celle qui a des visions. Enfin, tu vois, c'est le personnage qui a des visions.
Attends, tu parles de celle-là. Oui, d'accord. Ouais. Qui est complètement folle. Ouais,
t'as le shérif, donc, qui est joué par Harold Perrineau, qui était Michael dans Lost.
Oui, alors, il faut dire qu'il y a Perrineau de Lost, il y a Jack Bender de Lost, et il y a un autre scénariste.
Il y a tous ceux de Lost et de Fringe.
Il y a la réalisation, un acteur et un scénariste de Lost qui se sont réunis quand même pour venir écrire...
Et c'est produit par les frères Russo.
Aussi.
Mais de toute façon, c'est clairement Lost.
Encore plus avec le final.
Ah ouais, le final, ça en devenait même un petit peu trop obvious, parce qu'à introduire 12 millions d'indices et 12 millions de nouvelles situations, t'as la trappe qui se transforme en phare.
Alors, moi, j'aurais dit que le phare, c'était un peu la statue.
Ah oui, moi, j'aurais dit la même chose, c'était la statue.
La trappe, c'est plutôt quand la meuf creuse.
Oui, voilà, et t'as le voyage.
Le voilà.
Des arbres.
Le bateau qu'il devait construire dans Lost, bah là, c'est la tour, en fait.
Et t'as les ours sont remplacés par des araignées, des toiles d'araignées. Enfin...
Ouais. Et puis des.
Et
des
le monstre de fumée noire, c'est des monstres, tout court.
Des sons de tripodes, des grosses...
Oui. Ouais, mais à la fois.
Mais pour le coup, c'est bien fait, oui. Je trouve. Ça tient la route, quoi. Donc, et c'est plutôt fun à regarder, même
j'ai
si
des réserves, hein, pas... parce qu'ils auraient dû s'arrêter au 9e, je pense. Parce que les cliffhangers du 9e sont beaucoup plus efficaces que ceux du 10. Parce
que disons que le 10, à la fin, quand j'ai eu l'écran noir qui est arrivé, je me suis dit, ah bon, c'est ça la fin, c'est vrai que ça manquait un peu de punch. Quand
ouais, je suis assez d'accord avec toi, Tom. Enfin, pour moi, le 9, c'était un petit cliffhanger, mais qui construisait au fur et à mesure la mythologie. Et le 10e, vraiment, c'est à gros coup de, de pinceau. On vous met des trucs dans tous les sens, on vous laisse le destin de plein de personnages en suspens, mais vraiment à la Lost, mais puissance 10. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je me suis dit, jusque là vous preniez le cadre de Lost sans vraiment être trop grossier, et là ça l'est vraiment beaucoup trop. Enfin, par contre, le cliffhanger qui a marché du feu de Dieu sur moi, c'est celui d'Harold Perrineau. J'en tremble encore.
Ah oui, c'est vrai.
C'est mon pire cauchemar.
Mais après, c'est tous les mystères qu'ils ont rajoutés, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus que dans la saison 1 de Lost, hein, je trouve. Que,
oui. Bah, en même temps, il n'y a que 10 épisodes, donc c'est ramassé.
Bah, c'est ça, en plus. Mais c'est que tous les mystères là, qu'on nous rajoute sortent un peu vraiment de nulle part. Quoi. C'est rattaché à rien du tout. Ouais. Autant le 9, c'était rattaché à quelque chose. Mais là, tu vois, puis même l'histoire de la tempête, tu la vois venir à 10 km. Quoi. Oui. Justement, enfin, la voici arriver, ouais. Tu te dis bon.
C'est ça. Mais l'histoire de la radio, c'est l'histoire du bateau, on est d'accord.
Oui.
Les previously durent 3 ans, le générique aussi.
Non, le générique, il est trop bien.
Non, mais il est très beau. Il est très beau, le générique, mais très long.
Oui.
Allez, 2 minutes 30.
Ah ouais. Et les previously font 2:30 aussi. Voilà.
Mais de toute façon, c'est pas une série. C'est pas comme ce qui est arrivé dernièrement avec Yellow Jackets ou Severance. C'est pas une série où tu théorises. Pour moi, en fait, ils donnent pas assez dans les premiers épisodes. Ils essaient de construire leur personnage, leur communauté jusqu'au 9. Et le 9-10, ils sont allés tellement vite, tellement fort que t'as même pas le temps en fait, de te demander mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 9, qu'ils sont déjà passés à autre chose encore plus grandiose. Et du coup, je me dis c'est dommage parce que sur une saison de 20 épisodes ou 22 épisodes, ça aurait fonctionné à la mi-saison. Et après, la fin de saison, ça aurait été ce gros truc parce qu'ils auraient construit les choses au fur et à mesure. Là, ça va tellement vite que je me suis dit, j'ai même pas eu le temps de réfléchir et digérer l'épisode précédent pour me dire qu'est-ce que c'est, que on part dans 12 autres directions. Ouais. Et du coup, je suis à la fois... c'est divertissant, c'est très, très divertissant. C'est plutôt bien léché, les décors sont très bien.
Ouais.
Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va trop vite. Ça veut trop en faire et ça veut trop ressembler à Lost. Mais ça fonctionne.
Là, ils ont ouvert l'univers. Là. Ils commencent à l'étendre. Une expansion de l'univers comme dans Lost. Hein. Avant, c'était l'île. Après, il y avait les autres. Il y avait machin. Et là, c'est pareil, mais il n'y a pas la même base que dans Lost. Quoi. C'est-à-dire que là, le mystère, là, les monstres totalement oubliés depuis la mi-saison, quasiment.
Sauf non, dans la fin, il revient. Et en fait, pour le coup, moi, j'étais surpris que celui que voit Daphné Pataka du pauvre, soit le même que... Voilà, quoi. Mais bon.
En fait, on a commencé à faire aucune connexion entre les choses et on nous en rajoute 6 autres. Donc, tu te demandes, oui, certainement que tout est lié. Enfin, de toute façon, ça n'a pas le choix, ou alors ils sont quand même complètement cons. Mais si tout est lié, il faut nous laisser le temps un peu de faire les liens ou de se poser des questions. Pourquoi ça, c'est là avec ça.
Il y a quand même eu quelques flashbacks au niveau de Boyd.
Mais qui n'expliquait pas le personnage. Enfin, si, ça explique un peu le personnage, mais pas. Plus les mystères de la série que les
son problème avec son fils, parce que dans toutes les séries, a priori, il a un problème avec son fils. Mais pour toi, Maxime, c'est plus du côté de la Brea que de Yellow Jacket, et c'est vraiment ce niveau de la théorisation.
On nous donne trop, et. Dans un sens, parfois, c'est pas plus mal parce que sur des saisons aussi courtes, il faut aussi faire rester les gens et pas étendre son mystère pendant 10 ans. Mais par contre, en vrai, enfin pour moi, elle est à voir parce que contrairement à la Brea, les mystères se tiennent.
Oui, et puis c'est plus sympa à regarder que la Brea qui est quand même en carton pâte
et
qui est un peu con.
Mais tu vois, entre la Brea et From, on est quand même pas mal au niveau high concept Lost-like. Et puis Jacket, on peut mettre.
Oui, mais ouais.
Et Severance aussi.
On est plutôt pas mal, tu vois. Cette saison, c'est plutôt pas mal. Mais après, de toute façon, les showrunners avaient dit que niveau... Enfin, ils feraient pas comme Lost, hein. Ils avaient dit que ça allait avancer très vite.
Mais en fait, tu vois que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec le dernier épisode, clairement. Ils se sont dit, on va pas faire comme Lost, ou on va pas nous bassiner comme The Leftovers. On va leur donner plein de trucs qui seront expliqués, c'est sûr. Et tout le monde sera content. Et pour le coup, pourquoi pas, why not, ça fonctionne.
On passe à toute autre chose. On va sur Disney+, pour un nouveau super-héros, Moon Knight. Fred, qu'est-ce que c'est encore ce super-héros ?
Ben, c'est encore un super-héros Marvel, un super-héros de la rue. ici, mais l'originalité, c'est que ça ne se passe pas à New York, ça se passe à Londres pour cette série-là. Bon, ils auraient pu faire en sorte que ça se passe à New York aussi. Hein. En gros, on a Steven Grant qui est incarné par Oscar Isaac, qui est un employé d'une boutique de cadeaux au musée de Londres. Et il découvre au fur et à mesure que mince alors il est schizo et il y a quelqu'un d'autre qui prend possession de son corps. C'est la personnalité de Mark Spector qui a des liens avec une espèce de mafia, un truc en rapport avec un dieu égyptien et tout ça. Pour l'instant, il y a juste eu deux épisodes qui ont été diffusés. Je crois qu'il y en a six au total, il me semble. Et c'est assez mal foutu. Je trouve, hein, c'est hyper bancal, ça ne sait pas ce que ça raconte en fait.
Et t'es gentil en plus. Hein. Mmh.
Ah ouais, non, mais ils savent pas où ils veulent aller du tout. Dès le premier épisode, il y a une séquence qui se passe en Allemagne qui est sur fond vert dégueulasse. Mmh. Ethan Hawke, qui fait le soi-disant grand méchant de la série, il se demande ce qu'il fout là.
Voilà, il n'y a pas que lui, hein. Il y a Oscar Isaac aussi. Hein.
Oscar Isaac essaie de faire le show. Il se dit, faut que j'essaie de m'amuser, mais je sais pas trop ce que je dois faire en fait. Il y a aucune direction. Je sais pas du tout où ça veut aller.
Tu le sauras voilà. Au dernier épisode, au sixième.
Voilà. Voilà, mais je sais même pas si les créateurs savent où ils veulent aller en fait. Hein. C'est un peu le problème. Quoi.
Mais du coup, j'ai une question sur ces pouvoirs, entre guillemets, enfin, ces multiples personnalités. Il y a une explication ou elle se révèle juste du jour au lendemain ?
Non, il y a une des personnalités qui serait un espèce de protecteur du dieu égyptien Khonshu, qui est un dieu qui aurait été renié par les autres ou je sais pas quoi.
Et il l'a débloqué comment du coup ?
Ah bah ça c'est le grand mystère ouais. Pour l'instant. Donc
non, parce que ça commence quand même, en fait le mec il s'attache à son lit parce qu'il sait qu'il va drouiller la nuit quoi. Donc en fait lui il le sait déjà qu'il est peut-être somnambule ou quelque chose, mais en fait il sait pas quoi. Voilà.
Okay. Ouais. Non.
Et même par rapport aux comics c'est hyper bizarre parce que, enfin moi le souvenir que j'en ai hein, du comics, ça fait longtemps, il y a eu plusieurs runs très différents, mais c'est qu'à la base normalement Mark Spector c'est un espèce de milliardaire à la Bruce Wayne, sauf que c'est un milliardaire schizo quoi. Et là, il n'y a pas du tout ce côté-là dans la série.
Oui, parce qu'on ne te dit pas qu'il est schizophrène, mais on sait qu'il entend juste il entend une voix dans sa tête, quoi. Voilà. Et en fait, s'il faut, il pourrait être possédé par Khonshu, ça serait là exactement la même chose, quoi.
Ouais. Donc, non, je ne sais pas du tout où ça va aller. L'avantage, c'est qu'il y a juste 6 épisodes, a priori, donc ça va être vite torché. Si, il faut noter quand même que ça sera le dernier rôle de Gaspard Ulliel.
Oui. Bien sûr.
Qui arrive dans l'épisode 3, a priori.
Est-ce qu'on voit les liens avec la phase 4 Marvel dans sa globalité ou...
Pas du tout.
Ouais. Pas du tout, en tout cas pour l'instant.
Ouais.
Après, à voir s'ils vont nous raconter.
Un petit caméo en fin de générique, et puis voilà, c'est emballé.
Ouais, mais ça n'a pas l'air de s'y prêter pour le moment.
Ah, alors, il semblerait que si, pour le coup, mais avec The Eternals, parce qu'ils travaillent dans le même endroit où travaille un des personnages de The Eternals.
Ah, oui, voilà. Exact.
Ouais, mais ils vont vouloir le lier à Blade aussi, je pense. Genre héros de la nuit.
Ah oui, ah, mais, j'ai vu parce que. Pardon, j'ai vu un truc passer tout à l'heure parce qu'il dedans, il y a des QR codes dans la série. Et si tu les scannes, eh ben ça te renvoie sur des trucs de Marvel. Et donc, il y en a un qui a été scanné, ça renvoie sur un truc de Blade.
Ah non, mais voilà. c'est insupportable. C'est insupportable.
Non, mais c'est un jeu de piste pour les ultra-fans, ouais. C'est tout. Mais en fait... Ils sont même pas là pour regarder des trucs de Moon Knight, nouveau super-héros. Mais... Ils sont là pour voir comment ça se rattache au reste du bordel. Donc,
je pense que ça y est, en fait, les Marvel, pour lequel j'avais une tolérance, voilà, pour moi, c'est du divertissement, j'en attends rien. Là, ils arrivent vraiment à...
En série, au moins. Ils tirent sur la
ouais,
corde.
Moi, je suis à bout de nerfs. En fait, là, je vais arrêter Moon Knight parce que j'ai vu les deux premiers épisodes.
C'est atroce.
J'ai rien compris. J'ai strictement rien compris. Je comprenais pas qui était qui. Il y a aucun personnage. On suit Oscar Isaac, mais même lui, c'est pas vraiment un personnage. Il est d'emblée défini par ses incarnations, je ne sais pas quoi, parce que de toute façon, c'est le bordel. Les méchants, j'ai jamais vu aussi ridicules. On dirait un méchant des années 90. C'est horrible à voir. Enfin, tu parlais de la séquence en Allemagne ou en Autriche, je sais plus.
Ouais, non, ouais. C'est un pays qui s'appelait le Latverien, oui, voilà. Donc déjà de base.
Mais même à New York, la scène dans l'épisode 2 où il se bat contre un monstre, c'est irregardable.
Bah, on a de la chance, ils ont fait en sorte que le monstre il soit invisible, donc en fait il se bat tout seul, donc c'est vraiment ridicule.
Ah ouais, c'est ridicule, et même quand...
Non, on voit que Marvel a mis tout le budget dans Loki, maintenant il n'y a plus rien.
Et quand on disait où est-ce que ça va, moi je pense que ça va droit dans le mur, parce que vraiment la mythologie n'est pas là, les liens avec Marvel, si c'est par des QR codes... J'en vois pas.
Non, mais il va y avoir autre chose. Non, mais...
Ouais, parce qu'après, il faut qu'ils mettent avec She-Hulk, avec Miss Marvel. Enfin, ouais. Faut qu'ils mettent,
ouais, en termes d'audience, en tout cas, ça marche bien. Hein.
Du Marvel, pas, de toute voilà, façon. Donc,
Je comprends pas.
C'est la seule sortie de Disney+, quasiment.
Mais je sais même pas qui a créé la série, mais...
Un tocard.
Est-ce qu'il a fait des trucs avant, quoi? Parce que là...
Ouais, c'est une intelligence artificielle, oui. Au point où ils en sont...
Non, ou alors
c'est Jeremy Slater, voilà. Le fameux. Il a fait la série L'Exorciste, tu vois.
Ah, pourtant L'Exorciste était bien.
Bah ouais.
Marvel n'a pas regardé le premier épisode. C'est le truc le plus atroce qu'on peut voir à la télévision en ce moment, quoi. C'est vraiment dégueulasse.
Je pense qu'ils se sont dit, on a un contrat, faut livrer des trucs, ouais. À Disney+. Allez, on fait celui-là et point barre, quoi.
Oui, et puis les gens vont regarder, même si c'est nul, ils s'en foutent. Hein.
C'est ça.
Ça fait du contenu.
Mais le problème, c'est que quand tu regardes le retour, enfin moi je m'amuse à regarder de temps en temps les tweets et machin, mais en fait, il y a des gens qui aiment bien, quoi.
Bah, bien sûr, il y aura toujours des gens qui aiment bien.
Mais il y a des gens qui aiment bien Falcon, hein, aussi. Donc.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est même pas une série. Enfin, ça se voit que c'est pas une série. C'est un long film, c'est ça.
Tu clairement... vas dire le point long film, ça y est.
Ben oui, mais c'est clairement, ça se voit, quoi. C'est nul. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est moche, c'est débile et c'est mal écrit.
Alors, plus vous parlerez de Moon Knight, moins on parlera de Pachinko.
Ah ouais, non, bah alors, on va vite.
Bon, on passe à la suite. Allez.
Allez, Pachinko, le gros coup de cœur de pas mal de membres ici. C'est sur Apple TV Plus encore.
Meilleure plateforme en ce moment.
Clairement.
Du monde, à qui du monde. Stéphane, qu'est-ce que c'est, Pachinko?
C'est une pépite.
Merci, voilà. Stéphane.
Non, c'est l'adaptation d'un roman. Alors, j'ai oublié tous les noms. En plus, c'est du coréen, donc vaut mieux que je me taise pour éviter de massacrer les noms. C'est l'adaptation d'un roman qui raconte l'histoire d'une famille sur...
Quatre générations.
Oui, ouais. Quatre, trois, en vrai.
Ouais,
en vrai,
moi, j'aurais dit trois aussi, mais bon, bah, après, oui. Voilà. Mais donc, qui raconte... Et en même temps, ça raconte l'histoire de la Corée sous occupation japonaise et sur l'immigration coréenne...
Au Japon.
Ah, ouais, au Japon et aussi en dehors, parce que le but du jeu, c'était quand même se barrer aux États-Unis, par exemple, avec le jeune qui revient dans les années 80. Bon, enfin, bon, voilà. Et c'est juste le truc le plus délicat et le plus beau et le plus émouvant qu'on peut voir.
Depuis,
je pourrais pas te dire, parce que là...
Ah, j'ai cru que vous alliez dire This Is Us, pardon, mais...
je le sentais venir, ouais.
Ouais.
Ah, ouais. Bah, j'aurais pas osé, parce que non, mais c'est pas Normal People. Ouais, peut-être. Mais bon, on s'en fout, parce que il faut quand même regarder Pachinko, et c'est parce que c'est d'une émotion, c'est juste sublime.
Mais c'est bien plus subtil que This Is Us, hein. Désolé, je tiens à le dire. Enfin,
ouais, alors ça se voit que tu regardes pas This Is Us, toi, mais,
je suis avec toi.
Mais l'épisode 4 de Pachinko va faire date. Voilà, c'est tout simplement.
Bah non, mais j'ai adoré, j'ai chialé, mais comme pas.
Ah non, mais cet épisode
là. J'ai chialé tous les épisodes.
Ah ouais, non, mais cet épisode là est quand même magnifique et est tellement cruel en même temps. C'est grand art.
Voilà. Purement dramatique.
J'aime bien comment on peut vendre cet épisode. C'est l'épisode du bol de riz.
Ah ouais, non, mais laissez tomber. Franchement, tu vois, je comprends tellement.
J'ai des frissons. C'est un bol de riz, mais c'est impressionnant.
Non, mais c'est pas vendeur du tout.
non mais enfin il faut regarder, oui, parce que il y a, enfin c'est l'émotion à l'état pur, quoi. Enfin j'arrête pas de le vendre comme ça,
parce en que fait je vais dire un autre truc, c'est hyper bête à dire, mais à chaque fois
toi, c'est pas très surprenant.
Ouais, c'est bon là. Ouais. À chaque fois que je pense à l'immigration, en fait, bien sûr c'est quelque chose que je n'arrive presque pas à imaginer, même si c'est arrivé à moi, à ma mère, etc. Mais de l'époque de nos grands-parents, c'est c'était une immigration complètement différente, si vous voulez. C'est vraiment dire adieu à tout ce que tu connais. C'est l'inconnu. Est-ce que je vais revenir un jour là où j'ai... Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer, là. Est-ce que je vais revenir un jour sur les terres que je connais? Est-ce que, voilà, ça, dans la série, est-ce que je vais entendre la langue que moi, j'ai toujours parlé? Ce genre de choses, en fait. Et aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui, demain, j'appelle ma grand-mère, je lui fais un WeChat et c'est bon, quoi. Mais elle...
Est-ce que tu lui diras « wesh » Tu lui diras « wesh »
Je lui dirais « ouais », ça veut dire « allô » en chinois. Et ouais, bref, c'est pour ça, pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est presque, enfin, comme on dit, du pipi de chat, comme on dit, parce que, voilà, tu... c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer, bon, sauf dans certaines circonstances d'immigration moins légales, on va dire. Mais ouais, c'est vraiment rien à voir. Et tout de pouvoir que tu sois forcé ou que de le faire volontairement, je trouve que c'est hyper courageux déjà et immensément triste, quoi. Voilà.
Surtout, ce qu'il faut dire, c'est un grand merci à Apple TV. Je trouve, oui, de réussir à mettre la question de la ségrégation coréenne, la question des langues, la question de l'immigration justement forcée sur une plateforme américaine. Enfin, oui, on voit que la série, dans la manière dont elle a été produite, elle a les moyens, oui, d'une série américaine, elle a la patte un peu auteur indie qu'on peut voir aux États-Unis, mais moi, ce qui me touche profondément, et je pense que c'est probablement la première série jouée par des Asiatiques en coréen, en japonais, en anglais, que j'apprécie vraiment. Enfin, c'est même plus que apprécier, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'ils parviennent vraiment tellement bien à nous faire nous questionner sur des sujets, en fait, dont on avait pas conscience, parce qu'on parle de l'immigration syrienne, de l'immigration kurde, de l'immigration juive. Enfin, c'est tout ça, c'est des choses qu'on connaît notamment par notre...
Oui, ça met en valeur une partie de l'histoire asiatique qu'on ne connaît pas.
C'est
quoi,
ça, ouais. Et de montrer que non, il n'y a pas que ce qu'on vous montre à la télé qui existe. Il y a aussi d'autres choses dans l'histoire, mais même aujourd'hui, vous ne regardez pas forcément tout ce qui se passe dans le monde et ça se passe comme ça. Et cette plongée dans l'histoire, mais même aussi dans l'actualité, je trouve, elle est dingue. Vraiment, moi, ça m'apprend beaucoup de choses sur l'histoire, parce que en plus, je vais fact-checker tout ce qui se passe. Enfin, voilà, je me suis farci des pages Wikipédia et des articles. Mais justement, enfin, moi, pour moi, c'est bouleversant parce que ça m'a fait reconcevoir ma vision du monde et ma vision de l'histoire en me disant, mais c'est... Enfin, c'est pas la première fois, c'est un peu fort de dire ça, mais il n'existe pas que la vision occidentale et ça fait du bien que quelqu'un, enfin, une plateforme, le montre enfin, à grande échelle. Ça, pour moi, c'est fou.
Et moi, en plus, je trouve qu'il diminue vachement ce côté oppression japonaise parce que les Japonais, c'est... Enfin, dans le temps, hein, je parle pas d'aujourd'hui, mais dans le temps, la haine vouée aux Japonais, que ce soit des Coréens envers les Japonais ou des Chinois envers les Japonais, enfin, il y a une raison, en fait. Et là, on ne voit qu'un centième, un millième, si vous voulez, de cette oppression. Je trouve qu'ils sont soft, quoi, tout simplement.
Je sais pas si tu as fait attention, mais là, récemment, j'ai vu passer un article américain qui parlait de ce sujet-là. L'extrême droite japonaise est vent debout contre la série parce qu'elle glorifie les... Alors, c'est un nom particulier, donc les Coréens qui sont venus au Japon, mais que je ne pourrais pas retrouver, ne pas forcément prononcer correctement, mais qui glorifie cette partie-là de l'histoire japonaise, qui n'est vraiment pas glorieuse, donc. Et ça, enfin, c'est pour te dire à quel point encore aujourd'hui, en 2022, c'est encore un sujet sensible encore au Japon et pour les Coréens et pour tout le milieu asiatique qui a été sous l'empereur japonais, quoi. Enfin, c'est fou. Et qu'encore aujourd'hui, on en soit là. Enfin, bon, bref. De toute façon, l'extrême droite, la jeunesse emmerde l'extrême droite, donc.
Ouais, enfin, après, les Japonais sont quand même très, très traditionnels, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Hein.
Ah, et est-ce que on peut applaudir le probablement premier ou deuxième meilleur générique de l'année?
Oh là là! Sha-la-la-la-la-la, les faux today!
Il y a Severance et il y a Pachinko.
Il y a Pachinko, il y a Severance après. Ouais.
Est-ce que ce serait une mini-série, une série qui s'inscrira dans la durée, qui va aller au-delà du roman?
Au-delà du roman, je pense pas, mais là, le roman n'a pas été entièrement adapté.
Il reste trois épisodes, parce que je crois qu'il y en a huit.
Il y en a huit, apparemment, oui.
Mais avec les huit, le roman n'est pas entièrement adapté.
Et tu l'as lu, toi, le roman,
hein? Non, justement, je voulais, mais en fait, c'est un gros pavé, et là, je le sens pas. Enfin, je suis pas dans le mood pour le lire.
Mais en même temps, moi, ça me ferait peur d'avoir une saison 2.
Ouais. Parce que l'histoire, du coup, moi, j'ai tout vu encore une fois, et l'histoire se suffit en elle-même.
Hein, ah, en plus, tu me rassures. Mais donc, pour une saga familiale, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout, raccrocher entre les années 30 et les années 80, s'ils vont raccrocher les wagons, mais...
C'est ça, il y a encore des choses à dire. Disons qu'il y a une possibilité d'une prochaine saison, mais elle n'est pas nécessaire après la fin de la première. Après, dans le bouquin, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est vraiment chronologique. Donc, tu as le livre 1, c'est la génération de quand Sunja est petite. Le livre 2, toute la partie immigrée, et la partie 3.
Mieux. Je trouve le travail d'adaptation encore plus
incroyable. Réussi, ouais, je suis d'accord.
Parce que le mélange entre les années 80, les années 30, parce que plus ou moins Sunja, on la voit dans les années 30, qui est quand même exceptionnel. Le montage est d'une beauté. Les scènes qui rappellent d'autres scènes, et puis en plus, si tu le bol de riz, on te montre juste un plan de bol de riz dans l'épisode 5. Si t'as pas vu l'épisode 3 où on te parle du riz, et puis l'épisode 4, tu passes à côté. Enfin, il y a des scènes qui s'attrapent. Enfin, c'est magnifique.
Arrêtez votre abonnement sur Netflix, prenez un abonnement Apple TV.
Clairement.
Vu tout ce qu'on a dit sur Apple TV.
Je crois que c'est ça le problème d'Apple TV.
J'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui disait qu'il y avait un mois gratuit, donc il disait que de s'abonner pour regarder ses friends ce Pachinko.
Voilà, d'après ce que j'ai, c'est 7 jours gratuits.
Ah, 7 jours, putain.
Mais en plus, donc il y a For All Mankind saison 3 qui arrive.
Jeudi juin.
Voilà. Autre ambiance avec Halo qui arrive fin avril sur Canal+. Fred, qu'est-ce que c'est Halo?
C'est l'adaptation du jeu vidéo Halo. Du coup, auquel j'ai jamais joué, donc j'y connais pas grand chose. Et du coup, j'ai regardé pour l'instant juste les deux premiers épisodes et je m'en fous des joueurs royalement. C'est une catastrophe. Non, mais en fait, moi j'avais entendu parler du projet à l'époque où ça devait être Peter Jackson qui devait produire un film de Neil Blomkamp. Il y avait un scénario qui était écrit par Alex Garland aussi. Donc voilà, à l'époque, dans les années 2000, fin des années 2000 et début 2010, c'était assez hype. Là, ça débarque directement sur Paramount+, personne n'a entendu parler, tout le monde s'en fout.
Pas vrai quand même, c'est pas vrai. Ça fait 6 ans qu'ils essayent de monter le projet,
t'as eu des millions d'adaptations de Halo en web-série, en téléfilm, film,
mais au milieu de
personne
tout ça,
ne les regarde et ça a fait le buzz nulle
part. Ouais, Fred a raison, c'est quand même anti-climatique au possible, quoi,
En fait, j'ai vraiment regardé juste d'un œil, donc je pourrais même pas vous résumer le truc. Il y a juste une grosse scène de bataille sur le premier épisode qui dure une bonne demi-heure. Donc voilà, il y a de l'action. J'étais là, ouais, ok, cool, il y a de l'action, les extraterrestres moches et puis l'armée qui débarque. Et après, voilà. Mais c'est pas moi qui serais le mieux placé pour en parler parce que je connais pas du tout le jeu vidéo.
Moi non plus.
Justement, j'ai eu l'impression de regarder un jeu vidéo.
Bah oui, le premier épisode est fait pour. Hein. Complètement. Le premier, tu captes le fandom des joueurs, des gamers.
Ah ouais, franchement, tu mets un petit peu de personnage. Même celle de la fille, j'ai pas retenu les prénoms parce que de toute façon, au final, je m'en fiche. Je sais pas, même elle, c'est pas un personnage. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment rebuté cet aspect jeu vidéo, alors que si tu fais une adaptation et que t'as un petit peu de thune derrière, tu peux quand même avoir un
scénario. Tu as regardé que le premier, donc?
Oui, parce que vraiment, je peux pas.
D'accord,
j'ai vu les trois. Hein. Franchement, je trouve qu'ils ont de la thune derrière.
En fait, le 2 et le 3 posent les jalons de l'univers. Et en effet, ils ont mis plus de thunes dans les effets spéciaux de l'épisode 2 et 3 que dans le premier.
Ah, ok, d'accord.
Très con. Et juste niveau casting, il y a quand même des têtes un peu connues.
Ah, Natasha, elle est bien dedans.
Elle est toujours bien. Natasha McElhone, qui était la femme de Hank Moody dans Californication. Et il y a Pablo Schreiber. Il jouait Pantstache dans Orange is the New Black.
Il est bien dedans, hein, Pablo Schreiber, il se débrouille très bien dedans. Je trouve qu'il incarne le gros dur, mais en même temps un peu fragilisé parce qu'il est en train de vivre plutôt bien.
Il a un joli casque.
Et dans le jeu vidéo, il semblerait qu'il l'enlève jamais. Et donc là, tout le monde se posait la question de savoir s'il allait l'enlever ou pas. Quoi.
Ouais. Bah, dès le premier épisode. Ouais. Voilà,
c'est assez étonnant, il faut le dire.
Mais en même temps, ils étaient un peu obligés.
Oui, avec The Mandalorian, ça aurait été un peu compliqué de refaire la même.
On passe sur Disney+, avec Parallèle, série française. Stéphane,
oui.
C'est bien ou pas?
C'est bien, c'est sympathique.
Mais...
C'est exactement le mot que j'ai aussi.
Mais ça manque d'ambition, quoi.
Ah non, c'est pas...
Non. Ah non, non, non. Si, si, ça manque d'ambition. C'est 6 épisodes de 35 minutes. C'est trop bien impacté, en fait. Tout va trop bien au bon endroit, au bon moment. T'as un début, t'as une fin. Sauf que on te promet énormément de choses et en fait, t'as absolument rien. Tout est à peine effleuré. L'univers qu'il aurait pu nous mettre en place est effleuré. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il va y avoir de saison 2 ou si c'était une mini-série.
Il n'y en aura pas. C'est pas prévu en tout cas.
Ah bah alors si c'est ça, mais c'est encore plus raté. Ouais. Donc
Après, faut voir. La série vient de sortir sur Disney+. Ils attendent.
Dit que c'était fait pour être une série, mais enfin, c'était pas improbable qu'il y ait une saison 2, mais ça sera pas pour tout de suite s'il y en a une. Donc il faut comprendre qu'il n'y en aura pas, quoi.
Ils effleurent un univers qu'ils sont même pas capables de. Enfin, c'est dommage. C'est des mondes parallèles et tout ça, machin. C'était intéressant. Bon, déjà, ça arrive au 4e épisode qu'ils se rendent compte que c'est des mondes parallèles. Donc, déjà, c'est chiant
ça,
sur 6.
C'est un peu dommage.
Voilà. Donc, merci. On te dit oui, mais on s'intéresse aux personnages. Ouais, les personnages des enfants sont chiants à mourir. Donc, déjà, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a les adultes. Donc, merci pour une fois. Mais c'est sympathique. Ça se regarde. C'est frais, c'est léger. Y a pas de souci. Ça passe très bien. Mais sauf que moi, je trouve que ça manque d'ambition. Je l'aime bien, Kwok Dantran. Mais pour le coup, il aurait pu muscler son jeu un petit peu, quoi.
Moi, j'ai eu l'impression à la fin des 6 épisodes que j'ai regardé d'une traite parce que c'est vrai que ça se regarde très bien, c'est super divertissant. Les personnages et les acteurs sont convaincants.
Sauf les jeunes, disons-le, ouais, les jeunes, c'est moments. Déséquilibré. Oui.
On a vu pire quand même.
Je suis pas sûr.
Je regarde Modern Family pendant.
Il n'y a que Nahidra Ayadi qui s'en sort très bien.
Oui,
qui
est...
Non, mais elle est toujours très bien.
Mais heureusement qu'elle est là, quoi.
Mais en fait, j'ai eu l'impression à la fin des 6 épisodes d'avoir regardé une saga de l'été. Auquel on avait amputé au moins 20 minutes par épisode. Ils sont restés très timides, très tièdes en fait.
Non mais le format de 6 épisodes, si ta série elle commence au 3e épisode comme c'est le cas aussi pour Infinity là, de Canal+, ça sert à rien. Je suis désolé les gars.
Je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que ça c'était vraiment targeté série pour ados.
Mais les ados, ils sont plus cons que nous. Hein.
Je ne dis pas que c'est une question de connerie ou quoi que ce soit. Je dis juste, effectivement, il y avait des thématiques qui étaient moins prioritaires, je pense. Là, c'est complètement de la spéculation. Hein. Des thématiques moins prioritaires parce qu'ils voulaient quand même cibler un public ado, c'est tout. Et je ne trouve pas que ça manque d'ambition en soi. Sur les thèmes de la famille, etc., je trouve que c'est. Tu vois, ça, par exemple, ça.
Oui, mais il enfonce des portes ouvertes. Je suis désolé, c'est des trucs qu'on a déjà vus partout. Ça. Enfin...
Tout est juste effleuré, quoi, de toute façon.
Oui, clairement.
Et du coup, il y a l'impression qu'ils en gardent sous le pied pour éventuellement une suite. En plus, c'est un peu légèrement teasé à la fin.
Oui.
Parce qu'il y a du potentiel derrière. C'est quand même sympa comme série familiale, Disney. Voilà, c'est hyper accessible. Ça se regarde tout seul.
C'est un truc de SF qui est quand même potable, même en dehors de marketer les séries pour ados.
En revanche, je trouve qu'il y a une véritable proposition de la part de Disney+. Et c'est vrai que je suis curieuse de voir leur prochaine série. Ouskin, je suis quand même assez curieuse parce que
Ça va être complètement différent là.
Mais ce que je veux dire, c'est que la production est quand même hyper propre. Hein. Enfin, là même dans Parallèle, je trouvais que c'était très très propre.
Ah oui, non, mais ça pour le coup, il y a aucun la réalisation est plutôt sympa et les décors aussi quoi.
Très bien, donc c'est sur Disney+. On passe sur HBO Max avec Minx. Stéphane, il paraît que c'est sympa Minx.
Ah, c'est plus que sympa même, c'est plutôt fun à regarder même. Donc Mix, ça raconte l'histoire d'une journaliste qui est en galère pour monter son journal féministe et elle va s'associer à la mania de la presse porno qui est jouée donc par Nick de New Girl. Et donc, tous les deux, ils vont faire un magazine avec du côté des sujets très féministes et puis une page centrale avec un mec à poil. Et voilà. Et à partir de ce moment donné-là, c'est un peu la galère pour tout le monde.
Ça se passe dans les années 70.
Voilà, aussi. Au moment de la libération de la femme aux 70. Et puis, ça fait même référence au... comment ça s'appelait Miss America ?
Ah, c'est vrai ?
Oui, parce que bon, ça parle de ce moment, de là. Il y a les noms des personnages qui reviennent aussi. Et donc c'est plutôt sympa. Olivia Love Lovie Good, oui.
Lovie Bond.
Lovie Bond, je ne sais même pas pourquoi Good, mais enfin, c'est pas grave. est vraiment exceptionnel dedans. Moi, j'adore son sourire, son énergie. Donc, pour le coup, ça passe très bien. C'est drôle, c'est frais. Voilà, il y a un peu de drama. Il y a beaucoup de zizi pour les gens que ça intéresse. Franchement, c'est plutôt sympa.
Quoi. Ouais, je suis un peu plus mitigé que toi sur le résultat.
Bah, je me doute.
Et Minx, rapport au nom du magazine, oui. Ou c'est vraiment Minx
oui.
Pour dire.
Oui, okay, c'est le nom du magazine.
Mais ça va, on est souvent d'accord, Stéphane. C'est juste la première fois. C'est, pas grave. C'est un peu trop grossier dans le traitement de toutes ces thématiques. Au bout de 8 épisodes, en fait, j'ai trouvé ça très bien. C'est très drôle, comme tu dis, c'est très frais. Olivia Lovibond, elle est très très bien dedans. Elle communique une énergie qui est vraiment communicative. Mais au 8e épisode, je me suis dit merde, on en est toujours là et c'est pas très dynamique en fait. J'ai l'impression que ça parle tout le temps de la même chose. Tous les épisodes sont autour de la même thématique et du coup. Ah ouais, au 8e épisode, je me lasse et je me dis, j'ai pas forcément envie d'avoir une saison 2 si c'est pour refaire la même.
En plus, c'est ce que je t'avais dit après les 4 premiers. Je t'ai dit, putain, il faut qu'ils fassent gaffe parce que sinon, ça va vite nous lasser. Bon, pour le coup, moi, je trouve que les 4 suivants ont un peu quand même dévié des 4 premiers qui étaient quand même très axés. Elle a un problème et lui, il essaye de l'aider, mais elle écoute pas et puis il lui règle les problèmes à la fin.
C'est pas trop. Il y a 10 épisodes ou 8 ?
10.
10, ok.
Voilà, je trouve que ça s'améliore un petit peu. Bon, après, ça passe 25 minutes, franchement.
Oui, non, c'est très voilà. Sympathique. Hein.
C'est mon petit plaisir du samedi matin. Je rigole en me réveillant, donc c'est très bien.
Parfait. Est-ce que vous voyez qui c'est Catherine Parkinson?
Oui.
Et vous ne trouvez pas que Lovie Bond lui ressemble un peu?
Non.
T'as un effort.
Mais tes lookalikes, ils sont tout pourris. Donc,
non, elle lui ressemble vraiment. Bref.
Allez, okay. On termine avec, comme d'habitude, une série française, la saison 2 de En Thérapie sur Arte. Maxime.
Oui, bah, c'est très bien. J'avais été très. Enfin, ouais, je vais dire le mot mitigé. Sur la saison 1, je trouvais qu'il y avait des arcs qui fonctionnaient pas trop. J'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était autour de Reda Kateb et Mélanie Thierry. Par contre, j'aimais beaucoup ce qui se passait autour du couple de Pio Marmaille et Clémence Poésy. Et là, la saison 2, elle est 5 ans plus tard, donc juste à la sortie du confinement. Et on voit un peu les conséquences de ce que ça a provoqué sur les gens. Mais le truc en plus, je trouve, c'est que c'est vraiment le point de départ et après, on l'oublie très très vite. Contrairement aux attentats dans la saison 1 pour certains personnages. Et il y a des séances qui sont mais terrassantes. Je crois que c'est la 3e séance du petit garçon, Robin, qui est du coup le fils de Clémence Poésy et Pio Marmaille, qu'on revoit. Il m'a mais vraiment terrassé. J'étais en larmes devant parce que je trouve que ça a capté quelque chose dont on parle très rarement sous cet angle-là. Donc c'est un ado qui a au début du mal avec le divorce de ses parents. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi la manière dont il se construit alors que tout le monde le traite de gros. Parce qu'il est un peu en surpoids. Et moi, ça a fait tellement écho à justement mon adolescence et mon enfance. Tout ce qui se dit, c'est vrai. Enfin, je l'ai ressenti. Et du coup, j'ai été mais vraiment par terre. Vraiment par terre. J'ai rien pu regarder, rien plus voir personne de la soirée. C'était pas possible. Donc vraiment, rien que pour ça, il faut regarder au moins la 2e séance, enfin la séance du mardi, tous les 7 épisodes, je crois. Mais après, le reste est plutôt bon aussi. Ça aborde la question de l'avortement, ça aborde la question du burn-out, ça aborde aussi la vie personnelle de... Mince, comment il s'appelle le psychiatre ?
Dayan,
voilà. Donc ça, c'est avec les séances avec Charlotte Gainsbourg, qui remplace Carole Bouquet, et Dayan est en procès pour la mort d'un personnage de la saison 1. Cette partie-là est un peu moins bonne parce que je trouve que c'est un peu trop sérialisé de manière série classique, là où les séances de thérapie, je trouve que le concept fonctionne très bien. Ça, je trouve que c'est un peu... en plus, il y a un peu de toutélisme, où vraiment, tel événement dans le passé qu'on a déjà vu avec tel personnage qu'on a déjà vu, mais on n'avait pas fait la connexion, bah, tout de suite, il y a une connexion. Enfin, voilà, c'est un peu le bémol de la saison avec... Et c'est mon dernier point parce que vraiment ça me gâche les quand je les regarde quand je regarde toute la semaine de thérapie, c'est Suzanne Lindon.
Oui,
bah ouais. Louper l'épisode du mercredi, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. C'est assez impossible de jouer aussi mal et d'essayer de ressembler à Charlotte Gainsbourg, mais vraiment dans toutes les minutes. Et le pire, c'est que du coup, bah, Charlotte Gainsbourg est aussi dans la série deux épisodes après. Donc, tu vois les deux, tu fais, mais non, il faut qu'on arrête de lui donner des rôles à cette dame.
À cette dame, enfin, à cette jeune.
C'est celle qui avait fait son propre film
oui,
fait,
oui, c'est ça. Deux ans. C'est ça.
Tout à fait.
Est-ce que la saison 2 dans Thérapie, c'est plus ou moins la saison 2 de In Treatment non. sur les intrigues bah et les oui. sujets des.
Pas du tout, et justement, c'est, je pense, sa grande force, c'est que là, vraiment, on prend des, d'autres problèmes, on les traite ou alors on les traite d'une autre manière. Et par exemple, l'épisode sur l'avortement, il y a. Oui, enfin, je sais pas, il y a une spécificité qui fait que. Enfin, française, qui fait que tu. T'abordes pas les choses de la même manière.
Donc, d'accord, ok. Non, mais parce que c'est ça qui m'avait un peu saoulé dans la saison 1, c'est que ça reprenait quand même oui. beaucoup les bases de la saison 1 d'In Treatment.
C'était, et, hein,
c'était du copier-coller, moi ça m'avait saoulé, donc bon, voilà. Mais,
oui, non, là, là c'est beaucoup moins le cas, ou alors si ce n'est pas du tout.
Ok.
Et tout est rattrapable sur arte.tv.
Parfait.
Oui.
Parfait, et eh ben voilà. Eh bien, merci à tous, vous avez été formidables. Même toi. Non,
c'est toi le formidable.
Je ne dis rien.
Bah, merci. J'espère juste que j'aurai des séries beaucoup plus sympas la prochaine fois.
Bon, bah, merci à qui ?
De rien.
Merci Fred.
De rien.
Merci Stéphane.
C'était avec plaisir.
Et merci Maxime.
De rien.
Et je vous souhaite tous de très bonnes fêtes.
Bonne soirée, bonne journée.
Bah, c'est pas bientôt, c'est pour ça.
Et oui. Et bah voilà,
bon
bah, ça le causeur sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Et voilà, regardez donc Sévrance et Pachinko sur Apple TV+. Et on en reparle plus tard. Voilà. Enfin, non, on a déjà tout dit, mais voilà, si vous voulez venir nous. Enfin, bref. À bientôt, salut.
Bye.
Salut.
La sortie la plus laborieuse de tout
le monde. Oui, c'est ça quand tu écris tes intros, mais pas tes outros. Bah, voilà.